إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers frères et sœurs, comme je vous l'ai annoncé hier, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très important. Et ce sujet concerne le comportement qu'il convient à chacun d'entre nous d'adopter lorsque l'on jeûne. Et il n'y a pas de doute que le bon comportement fait partie des choses intégrantes de notre noble religion. Allah subhanahu wa ta'ala a d'ailleurs décrit son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en disant de lui « Wa innaka la'ala khuluqin 'azim » et tu es certes d'une moralité éminente. Et al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, rapportent que Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le servant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit à son sujet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur des gens en termes de comportement. Et il faut savoir que cette parole, elle est prononcée par Anas, qui est celui qui est resté au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant 10 années. Donc il ne dit cette parole qu'avec une connaissance certaine du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, il a pu l'observer dans différentes situations durant toutes ces années. Et le bon comportement, il fait partie des œuvres les plus lourdes dans la balance au jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas une chose plus lourde dans la balance que le bon comportement. » Et dans un autre hadith, il dit sallallahu alayhi wa sallam « L'homme peut certes atteindre par son bon comportement les degrés de ceux qui prient la nuit et jeûnent le jour. » Et ces deux hadiths ont été authentifiés par l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. On voit donc à travers cela qu'il y a dans le bon comportement un mérite immense qui ne doit pas nous échapper. Toutefois, il est important pour nous de comprendre qu'est-ce que le bon comportement. Et ce car nombre de personnes ont une vision restreinte de ce qu'est le bon comportement. Et lorsqu'on aborde ce sujet, ils pensent que l'on ne parle que des relations entre les gens, des bonnes manières qu'il convient d'adopter, et ainsi de suite. Mais en réalité, le bon comportement par lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été décrit, il est bien plus large que cela. Et il nous a été expliqué par son épouse, Aïcha, radiyallahu ta'ala anha. En effet, celle-ci fut interrogée au sujet du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle répondit alors au questionneur, « Ne lis-tu pas le Coran ?» Son comportement était le Coran. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait entièrement en pratique tout ce qui se trouve dans le Coran. Tout ordre qui est venu dans le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'y soumettait. Tout interdit qui est venu dans le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en éloignait. Toute chose qui a été louée dans le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait. Et toute chose qui a été blâmé dans le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a détesté. Et ainsi de suite. Il se paraît donc sallallahu alayhi wa sallam de tout ce qui est mentionné comme bien dans le Coran. Il se purifiait et s'éloignait de tout ce qui est mentionné comme mal dans le Coran. Et tel est donc le comportement qu'il convient à chacun d'entre nous d'adopter. Et ce de manière générale, c'est-à-dire tout au long de l'année, et plus particulièrement durant le mois de Ramadan. On a vu lors du premier cours de ce séminaire quelques sagesses que renferme cette noble législation, c'est-à-dire le jeûne du mois de Ramadan. Et parmi ces sagesses, il y a le fait que c'est un moyen pour toi d'atteindre la piété. Et c'est un moyen pour toi de t'habituer à contrôler ton âme et à prendre le dessus sur ton âme. Et c'est un moyen pour toi de t'habituer au bien et de t'habituer à faire prévaloir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les désirs de ton âme qui est incitatrice au mal. Donc le mois de Ramadan, c'est pour le croyant comme une école. Et il incombe à chacun d'entre nous de faire des efforts afin de ressortir de cette école en s'étant amélioré et en ayant réformé nos situations, et ce, afin de pouvoir par la suite persévérer sur le bien et les bonnes actions, et ce tout au long de l'année. On va donc voir dans cette assise, Inch'Allah ta'ala, quelques comportements obligatoires qu'il incombe à chacun d'entre nous de mettre en pratique, sans quoi notre jeûne ne pourrait être complet. Et nous verrons aussi quelques comportements recommandés qu'il convient aux jeûneurs d'observer et de ne pas négliger. Et sachez tout d'abord que lorsque l'on parle de bon comportement, la première chose sur laquelle tu dois te concentrer, c'est le fait d'avoir un bon comportement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que le bon comportement vis-à-vis d'Allah? Le bon comportement vis-à-vis d'Allah, c'est que tu sois satisfait et que tu agrées l'ensemble de ses jugements, que ce soit ses jugements religieux, mais aussi ses décrets, c'est-à-dire ce qu'il a destiné. Tu te dois donc d'accepter les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une poitrine épanouie, sans être angoissé ni même attristé. Et si Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour toi une chose pour laquelle tu as de l'aversion, une chose qui est difficile, une chose qui te blesse, alors tu dois tout de même te soumettre à cette chose et patienter. Et tu ne dois pas te lamenter. Et tu dois sans cesse garder en tête la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ » Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose, alors qu'elle vous est un bien. Il se peut que vous aimiez une chose, alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. Méditez sur ce verset et méditez sur la situation que l'on vit actuellement. Nombre de personnes sont touchées par cette épreuve, cette épidémie qui s'est propagée à travers le monde, et nombreux sont ceux qui auraient aimé que ceci ne se produise pas et en être préservés. Toutefois, si on regarde cela d'un œil objectif et que l'on médite sur la situation de beaucoup de musulmans pour qui cette épreuve a peut-être été une cause de leur repentir, a peut-être été une cause pour eux d'être assidus aux prières, a peut-être été une cause pour eux de consacrer un peu plus de temps à l'étude de la science, et ainsi de suite. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose, alors qu'elle vous est un bien. Tu dois donc regarder chaque épreuve et chaque mal qui t'atteint dans ce bas monde de cette manière en pensant à ce verset. Tu regardes cette épreuve, tu regardes ce mal, et tu essayes d'en tirer profit afin d'en sortir meilleur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci concerne donc les décrets qu'Allah subhanahu wa ta'ala a destinés. Quant à ces décrets religieux, c'est-à-dire les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiférées pour nous, à l'exemple du jeûne de Ramadan, alors il est obligatoire pour nous, pour l'ensemble des musulmans, de nous y soumettre, et ce, avec sérénité et apaisement, en étant satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, et en aimant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Et ce, car le croyant, il aime ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour lui. Et il se réjouit d'avoir été honoré et d'avoir été choisi, et ce parmi des milliards de créatures, pour pouvoir se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et adorer Allah en lui vouant un culte exclusif, alors que nombre de créatures ont sombré dans l'égarement et dans la mécréance, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Tel est donc le bon comportement que l'on se doit tous d'adopter vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis de ses décrets religieux et vis-à-vis de ses décrets qu'il a destinés. Et parmi les comportements obligatoires qu'il incombe à chacun d'entre nous de respecter de manière générale tout au long de l'année, mais plus encore lorsque tu jeûnes, il y a le fait que tu accomplisses tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour toi comme adoration. Et parmi les adorations les plus importantes, il y a bien sûr la prière obligatoire, qui est le pilier le plus immense de l'islam après les deux attestations de foi. Il est donc obligatoire pour chacun d'entre nous d'être assidu à ces cinq prières, d'accomplir ces cinq prières comme il se doit, c'est-à-dire que tu respectes leurs piliers, que tu respectes leurs obligations, que tu respectes leurs conditions, et que tu mettes en pratique ce qui est recommandé dans ces prières. Et tu ne pourras atteindre cela, bien sûr, que par l'apprentissage de cette chose, et on revient encore une fois de plus sur l'importance de l'apprentissage de la science. Il t'incombe donc d'accomplir chaque prière en son temps. Et bien sûr, en temps normal, c'est-à-dire en dehors de cette période de confinement, les hommes doit accomplir ses prières en groupe dans les mosquées. Et la fermeture des mosquées, elle doit faire méditer chacun d'entre nous parmi ceux qui souffraient d'une certaine négligence et d'un certain manquement quant à ses prières en commun. En effet, nombreux sont ceux, parmi les musulmans, qui ne donnaient pas à la prière en commun l'importance qu'elle mérite en réalité. Et aujourd'hui, tu vois que nous avons été privés de cette adoration. Et ceci est une épreuve. Et celui qui est assidu, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, ne le prive pas de sa récompense, et la récompense complète lui est inscrite. Quant à celui qui était négligent, ou celui qui n'assistait pas à ses prières, il doit savoir que bien que ses mosquées sont fermées, il est possible pour lui de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir des regrets pour le passé, et d'avoir la ferme intention qu'une fois que les mosquées seront réouvertes, alors il sera assidu à ses prières en commun. Et tu dois savoir que si tu as cette intention, et que tu es véridique en cela, alors Allah subhanahu wa ta'ala t'écrit la récompense d'une bonne action complète. Comme il est venu dans le hadith, quiconque a l'intention de faire une bonne action, puis qu'il ne la fait pas, alors une bonne action complète lui est inscrite. Donc le fait d'être assidu à ses prières, cela fait partie de la piété. Cette piété pour laquelle le jeûne a été légiféré afin que l'on puisse l'atteindre, comme on l'a vu lors de la mention des différentes sagesses du jeûne. Une de ces sagesses est donc que le serviteur atteigne la piété. Et le délaissement de la prière, il n'y a pas de doute que c'est une chose qui s'oppose à la piété. Et c'est même une cause de châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leurs passions. Ils se trouveront en perdition. Quelle est la cause de leur perdition? Le délaissement de cette prière. Le musulman doit donc prendre garde à ne pas négliger ses 5 prières obligatoires quotidiennement et à être assidu à ses prières et de ne jamais les manquer. Et si une personne a été négligente, a eu des manquements, a eu du laisser-aller, elle doit savoir que la porte du repentir lui est ouverte et qu'elle ne doit pas désespérer. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit après ce verset, après cette menace, Illa man tab wa amana wa amila saliha fa ulaika yadkhuluna al-janna wa la yudhlamuna shay'a. Sauf celui qui se repent, croit et fait le bien, ceux-là entreront dans le paradis et ne seront point lésés. Donc celui qui a délaissé la prière, il doit savoir que tant qu'il est vivant, il n'est jamais trop tard pour se repentir. Toutefois, il ne doit pas retarder ce repentir. En effet, tu ne sais pas à quel moment la mort viendra. Donc tu dois t'empresser de te repentir et ne pas retarder cela. Et si tu te repens, alors Allah subhanahu wa ta'ala accepte ton repentir. Et il n'y a pas de doute que le mois de Ramadan, c'est une occasion immense pour chacun d'entre nous de nous repentir et d'être assidus à nos prières. Surtout en cette période de confinement, tu es dans une situation idéale afin de te réformer. En effet, de nombreuses activités ont cessé à cause du confinement. Nombre de personnes ont arrêté de travailler, et ainsi de suite, et ils se retrouvent ainsi à passer de nombreuses heures dans leur maison. Donc, cette situation est une situation idéale pour que tu sois assidu à tes prières. Toutefois, prends garde de prier en ayant l'intention qu'une fois le confinement terminé, tu ne seras plus assidu à ces prières. Car si tu fais cela, et que tu as cette mauvaise intention, alors ceci ne sera pas un repentir accepté. Car il fait partie des conditions du repentir que le musulman ait la ferme volonté de ne plus recommettre le péché. Ici, le péché, le délaissement de la prière ou le fait de la retarder et la faire sortir de son temps. Donc tu dois avoir la ferme volonté d'être toujours assidu à tes prières, et ce jusqu'à la fin de ta vie, inshallah ta'ala. Et donc il y a des jeûneurs qui malheureusement vont très loin dans la transgression. Certains passent leur journée à dormir au point de faire sortir la prière de son temps. Et il n'y a pas de doute que ceci fait partie des plus grands péchés, des plus grandes désobéissances et des pires négligences vis-à-vis de cette prière. Et tu dois savoir que nombre de savants ont dit que quiconque retarde la prière de son temps, sans aucune excuse légitime, alors sa prière n'est pas acceptée. Et ce, même s'il prie 100 fois. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, d'après notre mère, Aïcha, radiyallahu anha, quiconque fait une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, Alors son œuvre est rejetée. Son œuvre est rejetée. Et la prière en dehors de son temps, c'est une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonnée. Donc, si la personne n'a pas d'excuse, sa prière est rejetée et elle n'est pas acceptée. Donc tu dois faire des efforts tout au long de ta vie pour être assidu à cette prière. Et notamment durant ton jeûne, tu ne dois pas négliger cette prière ainsi que l'ensemble de tes obligations religieuses. Tu dois tout faire pour ne rien négliger de cela. Et ceci fait partie des comportements obligatoires pour le musulman tout au long de l'année et d'autant plus durant le mois de Ramadan, qui est un mois où les œuvres sont décuplées. On compte aussi parmi les comportements obligatoires qu'il incombe au jeûneur de s'écarter de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont interdit, et ce parmi les paroles et les actes. Et entre dans cela les nombreux péchés commis par nos langues. En effet, il se peut qu'il soit facile pour le croyant de s'écarter des grands péchés tels que le vol, la pratique de l'usure, les turpitudes, la consommation d'alcool, et ainsi de suite. Ceci, pour celui qui est pieux, qui a la foi, cela ne lui demande pas de grands efforts. Il a de la facilité à délaisser ses péchés car ce sont des choses que son âme répugne et il n'est pas tenté par celles-ci. Mais les péchés de la langue, ce sont des péchés qui sont très dangereux, car ce sont des péchés qui sont très accessibles, ce sont des péchés qui ne demandent que quelques mouvements de ce petit membre, et ce sont des péchés dont beaucoup d'entre nous ne se rendent pas compte de leur gravité. Et parmi ces péchés, il y a le mensonge. Donc le musulman, il se doit de s'écarter du mensonge, et à plus forte raison lorsqu'il jeûne. Et le mensonge, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de dire une chose qui est contraire à la réalité, même si ton intention n'est que de plaisanter. Et il n'y a pas de doute que le pire des mensonges est le mensonge sur Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que le mensonge sur son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Comme le fait de leur attribuer, par exemple, qu'une chose est permise dans la religion alors qu'elle est en réalité interdite. Ou alors, de dire qu'une chose est interdite alors qu'elle est en réalité permise. Et ce, et tombent dans ce péché, nombre de personnes, parmi ceux qui ne se rendent pas compte de la gravité du fait de parler sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Et nombre de personnes sont tombées dans ce péché aujourd'hui, notamment à travers les réseaux sociaux, comme vous le savez, où chacun pense qu'il est permis pour lui d'exprimer son opinion et de donner son avis sur toute chose parmi les questions religieuses. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre « وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبُ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » Et ne dites pas, conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci est licite et cela est illicite. Pour forger le mensonge contre Allah, certes ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. Ce sera pour eux une piètre jouissance, mais un douloureux châtiment les attend. Et dans les deux recueils authentiques, d'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque ment volontairement sur moi, qu'il prépare alors sa place en enfer. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre le mensonge lorsqu'il a dit « Prenez garde au mensonge, car certes le mensonge mène à la perversité, et la perversité mène en enfer. Et l'homme ne cessera de mentir et d'avoir recours au mensonge jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah en tant que grand menteur. » Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Donc le musulman, il doit préserver sa langue de tout mensonge, de toute information qu'il dit qui est contraire à la réalité. Ceci est un mensonge. Même si c'est un mensonge sur une chose qui est insignifiante et qui n'a pas d'importance à la base, il ne t'est pas permis de mentir. Et parmi les formes de mensonges qui sont courantes à notre époque et auxquelles nombre de personnes ne prêtent pas attention, il y a le fait de transférer tous ces messages mensongers, ces messages sans aucune source qui nous sont transmis sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, Twitter, Facebook et ainsi de suite. Nombre de personnes reçoivent des messages, parfois sur des choses qui sont insignifiantes, qui n'ont aucune importance, et ils transfèrent le message à tous ces contacts, sans même vérifier si l'information est de source sûre et qu'elle est réelle. Donc lorsque tu reçois des messages ainsi, tu ne dois pas t'empresser de les relayer, mais tu dois d'abord vérifier L'authenticité de ce message, est-ce que c'est un message véridique ou bien contient-il des mensonges? D'autant plus si cela concerne un sujet religieux. Prends garde à ne pas transmettre un hadith attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que celui-ci est un hadith mensonger. Tu dois donc vérifier tout d'abord la source de ce message. D'où vient-il? Qui l'a écrit? Est-ce que les informations qu'il contient sont réelles et authentiques? Puis si c'est le cas, avant de le relayer, tu dois vérifier. Est-ce qu'il y a un intérêt pour moi et pour ma religion dans le fait que je relaie cette information? S'il y a un intérêt, alors alhamdulillah. Mais s'il n'y en a pas, que c'est une information qui est futile et qui n'est d'aucun profit, alors sois un verrou face au mal et fais que ton téléphone ou tes comptes sur les réseaux sociaux soient la limite à laquelle vont s'arrêter ces messages mensongers. Et parmi les péchés de la langue, desquels il convient également de s'écarter en tout temps et d'autant plus durant le mois de Ramadan, il y a la médisance. Et la médisance, c'est le fait de mentionner ton frère, en son absence, par une chose qu'il déteste. Que cette chose concerne son apparence, ou que cette chose concerne son comportement, comme le fait de le dénigrer, de le rabaisser, ou alors de se moquer de lui. Tout ceci entre dans la médisance. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit la médisance dans son noble livre. Il a dit subhanahu wa ta'ala « وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ » Et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur. Donc le fait de médire sur ton frère, cela est pire et plus répugnant que de manger sa chair après sa mort. Il n'y a pas de doute si on te dit de manger la chair d'une personne qui est morte. Pas de doute que ceci va te répugner. Donc sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a informé que le fait de médire sur ton frère est encore pire et plus répugnant. L'imam Abu Dawud, rahimahullah, rapporte d'après Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lors de mon ascension, je suis passé à côté de gens qui avaient des ongles de cuivre. » Qu'est-ce qu'il faisait avec ses ongles de cuivre? Avec lesquels il se déchirait les visages et les poitrines. J'ai alors dit, qui sont ceux-là, ô Djibril? Il me répondit, ceux-là sont ceux qui mangent les chairs des gens et portent atteinte à leur honneur. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner pour nos manquements et de nous aider à lutter contre nos âmes afin de délaisser ce péché qui est un grave péché. Également parmi les péchés de la langue, il y a ce qu'on en appelle en arabe an-namima et que l'on pourrait traduire en français par le colportage, dans un sens rapproché. La namima en arabe, cela désigne le fait de rapporter à une personne la parole qu'une autre personne a dite sur elle, et ce dans le but de les désunir et de semer la corruption entre elles. Et ceci fait partie des grands péchés. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le nammam, celui qui fait cela, qui transmet les informations, les paroles qu'une personne a dites sur une autre, dans le but de corrompre entre elles, le nammam, n'entrera pas au paradis. » Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Et ces deux imams, Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah, rapportent aussi d'après Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhumah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à côté de deux tombes et a dit « Ces deux-là se font certes châtier, et ils ne sont pas châtiés pour quelque chose de grand, c'est-à-dire quelque chose de grand aux yeux des gens. » Car en réalité, ils ne se rendent pas compte de la gravité de ce qu'ils ont fait. Et les gens sont négligents, alors que ceci fait partie des grands péchés. Il a donc dit, ils ne sont pas châtiés pour quelque chose de grand. L'un d'entre eux ne se préservait pas de l'urine. Et l'autre était un hammam. C'est-à-dire qu'il colportait les informations entre les gens afin de semer la discorde entre eux. Ceci est donc un grave péché duquel le musulman doit s'éloigner. Car il résulte de ce péché la corruption et la discorde entre les individus, et la division et l'animosité entre les musulmans. Et tu dois prendre garde à ces personnes qui vont sans cesse venir à toi te rapporter ce qu'un tel ou un tel a dit sur toi. Il y a des gens qui sont comme ça. Dès qu'ils entendent une information sur toi, ils courent et ils viennent te la rapporter. Il y a des personnes qui leur tendent l'oreille et qui leur prêtent écoute. Et ceci est une erreur. Car sache que si une personne fait cela avec toi, qu'il vient te rapporter les informations que l'on dit sur toi, sache alors que ce que tu dis toi aussi, il va le rapporter aux gens. Et il n'y a pas de doute sur cela. Donc tu dois prendre garde à ce genre de personne et être un verrou face au mal. Et lui dire, je n'ai pas besoin de savoir ce qu'un tel ou un tel à des surmorts. Également parmi les péchés desquels il convient aux musulmans de s'écarter, de manière générale et d'autant plus durant le jeûne, il y a la tromperie. Et on vise par cela la tromperie dans les transactions, ainsi que la tromperie dans les échanges et les discussions. Et ce car la tromperie, elle fait aussi partie des grands péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est certes désavoué de son auteur lorsqu'il a dit « Celui qui nous trompe n'est pas des nôtres ». Et dans une autre version, « Celui qui trompe n'est pas de moi ». C'est-à-dire qu'il se désavoue de lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce car la tromperie, c'est également une cause de corruption de la relation entre les gens. Et cela est une cause qui va leur faire perdre toute confiance entre eux. Regardez les gens chez qui la tromperie est abondante. Tu verras que chacun se méfie de chacun. Il n'y a plus de confiance entre eux. Leurs relations ne sont plus basées sur l'honnêteté. Mais chacun va se méfier de ne pas se faire tromper par l'autre. Et sache que tout argent que tu as obtenu par le biais de la tromperie, alors cet argent, c'est un argent sale qui ne t'apporte que l'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que parmi les formes de tromperie qui sont répandues à notre époque, il y a toutes ces nouvelles méthodes de marketing qui sont utilisées par beaucoup de gens, comme le fait de faire croire à l'acheteur qu'il profite d'une réduction, et en prétendant qu'il ne peut profiter de cette réduction que durant un temps limité. Vous avez tous vu des annonces qui sont nombreuses à circuler sur Internet. Profitez de cette offre spéciale, 147 euros au lieu de 1500 euros. Allahu Akbar. Quelle est cette promotion? Avez-vous déjà vu un commerçant faire une telle promotion? Diviser son prix par 10, à part s'il est en faillite, qu'il souhaite se débarrasser de sa marchandise. Donc ceci est en réalité une forme de tromperie. Car celui qui vend ce produit, en réalité, il ne lui a pas donné de réelle valeur. À la base, souvent, son produit est un produit nouveau, un service, auquel il est difficile de donner une valeur. Alors il met un prix immense comme celui-ci, et en réalité, il le vend au prix qu'il désire, qui est le prix qu'il souhaite obtenir. Donc il va mettre une somme comme celle-ci, 147 euros, 150 euros, 190 euros. Et les gens vont se précipiter, pourquoi? Car il va leur dire que, attention, vous n'avez que 10 jours pour profiter de cette offre exclusive. Après, le prix repassera à 1500 euros. Mais son produit est nouveau. Personne ne l'a acheté à 1500 euros. Et personne ne l'achètera une fois cette offre terminée. Donc qu'est-ce qu'il va se produire? Il va renouveler son offre régulièrement. Et ceci est en réalité une forme de tromperie envers les musulmans. Et il est à craindre pour ces personnes que l'argent qu'ils acquièrent de cette manière est un argent qui n'est pas licite, wallahu musta'an. Également, parmi les péchés desquels il convient de prendre garde et de s'éloigner, de manière générale et d'autant plus durant le jeûne, il y a les péchés liés à la vue et à l'ouïe. Le musulman, il doit donc s'écarter de l'écoute de la musique, car cela est interdit dans notre noble religion. Et le péché est encore plus grave lorsque cette musique est accompagnée de chants qui appellent à la perversion et au péché. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Et parmi les hommes, il y en a qui, dénués de science, achètent de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. Il est rapporté de manière authentique que Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, ce noble compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fut interrogé au sujet de ce verset. Il répondit alors, « Je jure par Allah, en dehors duquel nul ne mérite d'être adoré, ceci concerne la musique. » Et la même parole est rapportée d'Ibn Abbas, ainsi que d'Ibn Omar, et d'autres parmi les salafs. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre cela lorsqu'il a dit « Il y aura des gens de ma communauté qui rendront licite la fornication, la soie, l'alcool et les instruments de musique. » Qui rendront licite, c'est-à-dire qui commettront ces péchés sans y prêter la moindre attention, comme si cela était des choses licites. Et il n'y a pas de doute que ceci s'est certes produit à notre époque. Nombre de musulmans commettent ces péchés comme s'ils étaient licites. Et ceci fait partie des ruses des ennemis de l'islam qui ont pour but d'éloigner les musulmans du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ce qui leur est profitable dans leur vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. À l'exemple de l'écoute du Coran ou alors l'écoute de cours religieux, l'écoute de choses qui vont te profiter pour ta religion, desquelles tu vas tirer profit pour t'améliorer ici-bas et desquelles tu vas tirer profit en termes de récompense dans l'au-delà par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, combien de musulmans écoute plus de musique qu'il n'écoute le Coran. Alors que dire de l'écoute des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou encore des paroles des gens de science? Il n'y a pas de doute que ceci a été délaissé en grande partie par beaucoup de personnes. Et ils ont préféré au lieu de cela ces discours qui les distraient et qui bien souvent les appellent au mal. Et on a déjà vu la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: celui qui ne délaisse pas les paroles fausses et leur mise en pratique, alors Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Tu vois, pendant le jeûne, délaisser la nourriture et la boisson qui sont des choses licites pour le musulman. Elles lui sont juste interdites durant les journées où il jeûne. Donc si tu délaisses ces choses qui sont licites à la base, que dire de ces choses qui font partie des péchés? Il n'y a pas de doute qu'il t'incombe encore plus de les délaisser. Et Jabir, radiyallahu ta'ala anhu, a dit: lorsque tu jeûnes, alors que jeûne ton ouïe, ta vue et ta langue du mensonge et des interdits. C'est très important. Tu ne dois pas faire jeûner seulement ton ventre. Car comme on a dit, ceci n'est pas la finalité. La finalité, ce n'est pas simplement que tu ne manges pas et que tu ne boives pas durant la journée. Mais la finalité, c'est quoi? C'est que tu atteignes la piété. Et pour atteindre la piété, tu dois impérativement préserver ton ouïe, préserver ta vue et préserver ta langue de tous les interdits. Et ainsi, tu vas protéger ton jeûne de tout ce qui pourrait en diminuer la récompense ou pire encore, être la cause de l'annulation de ton jeûne, Allahu musta'an. Donc pendant le Ramadan, c'est un conseil que j'adresse à ma propre personne en premier lieu, ainsi qu'à l'ensemble de mes frères et sœurs, n'hésitons pas à nous éloigner d'Internet et des réseaux sociaux. Au lieu de passer des heures sur YouTube, sur Facebook ou autre, à regarder des choses futiles, ou pire encore, des choses interdites, consacre-toi plutôt à la lecture du Coran, à la lecture du Coran, à sa méditation, ou alors, en plus de cela, à l'écoute de cours religieux, des choses comme on a dit qui vont te profiter dans ta religion, qui vont te profiter dans ta vie d'ici-bas, qui vont t'aider à t'améliorer et qui vont te profiter dans l'au-delà lorsque tu recevras la récompense de tes bonnes œuvres auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et prends garde à ce téléphone qui est entre tes mains. Ce téléphone, tu sais que c'est une arme à double tranchant. Il se peut que tu en profites dans le bien, comme pour écouter des cours religieux, écouter le Coran, et ainsi de suite parmi les bonnes choses, entretenir tes liens de parenté, et ainsi de suite. Mais il se peut aussi qu'en quelques instants, ce téléphone, il te conduise à ta perdition. Donc prends garde. Et si tu sais que tu n'arrives pas à te contrôler lorsque tu es avec ce téléphone ou lorsque tu es derrière ton ordinateur, alors ne consulte pas ton téléphone et ton ordinateur lorsque tu es seul. Mais sois toujours accompagné. Ainsi, cela va t'aider, bi-idhnillahi ta'ala, à délaisser nombre de péchés qui sont commis avec ces appareils. Donc de manière générale, le comportement obligatoire que doit adopter le jeûneur, c'est de se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce, en les accomplissant. Et de s'éloigner des interdits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et comme on a dit, ceci est une obligation tout au long de l'année. Mais durant le mois de Ramadan, cette obligation est encore plus confirmée. Car les récompenses, elles sont décuplées durant ce mois. C'est le mois du bien. C'est le mois durant lequel tu te dois de multiplier les bonnes actions. Ceci concernait donc les comportements obligatoires liés au jeûne et comme on a dit, qui sont en réalité légiférés pour nous tout au long de l'année. Nous allons maintenant citer quelques comportements qui sont recommandés durant le jeûne, c'est-à-dire les actes recommandés durant le jeûne, que ce soit le jeûne de Ramadan ou autre parmi les jeûnes. Donc parmi ces comportements qui sont recommandés, il y a le fait de prendre le suhoor, qui est le repas qui est pris en fin de nuit, quelque temps avant l'aube. Et ceci est une sunna confirmée, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: prenez le suhoor, car il y a en lui une bénédiction pour la personne. Et ce hadith est rapporté par al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Et d'après Amr ibn al-As, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la différence entre notre jeûne et le jeûne des gens du livre est le repas pris avant l'aube. C'est-à-dire que c'est une manière de se distinguer des gens du livre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé à manger des dattes lors de ce repas. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: les dattes sont le meilleur sahur du croyant. Donc c'est une bonne chose et une sunna de prendre des dattes durant ce repas. Et ce sahur, il peut se prendre avec peu ou beaucoup de nourriture, même si ce n'est qu'avec une gorgée d'eau. Et ce, afin de ne pas délaisser cette sunna. Car il y a des personnes qui n'arrivent pas à manger au réveil. Donc, de ce fait, ils vont faire quoi? Ils vont prendre un repas tard dans la nuit, et ils vont délaisser le sahur et se lever seulement pour le fajr. Donc nous leur disons, le mieux pour toi est de te lever ne serait-ce qu'un instant avant l'heure de l'aube, et de boire quelques gorgées d'eau afin de mettre en pratique cette sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque tu prends ce repas, il te convient de le faire en ayant l'intention de te soumettre à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'intention de faire comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, tu ne te lèveras pas simplement pour manger, mais tu te lèveras avec pour objectif d'accomplir cette adoration qui est une sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi tu seras récompensé pour ce repas. Et la sunna est de retarder le suhur. Et ce d'après le hadith de Zayd ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu qui a dit: nous avons pris le suhur avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puis nous nous sommes levés pour aller accomplir la prière. On lui a demandé combien de temps séparait le suhur de la prière. Il a dit radiyallahu ta'ala anhu: le temps de réciter 50 versets. 50 versets du Coran. Donc, on voit que c'est un temps qui est relativement court. Donc la sunna, c'est de le retarder quelque temps avant l'aube. Également, parmi les comportements qui sont recommandés durant le jeûne, il y a le fait de t'empresser de rompre dès le coucher du soleil. Et ce, d'après le hadith que rapporte Sahl ibn Sa'd, radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens ne cesseront d'être sur le bien tant qu'ils hâteront la rupture du jeûne. C'est-à-dire qu'ils s'empresseront de rompre une fois le moment venu. Tu ne retardes pas cela, mais tu t'empresses de rompre, même si tu as des autres occupations qui sont peut-être importantes et que tu dois continuer à ce moment-là, empresse-toi de prendre ne serait-ce qu'une date ou une gorgée d'eau. Et la sunna est de rompre ton jeûne avec des dattes fraîches. Si tu n'en trouves pas, alors avec des dattes sèches. Et si tu n'en trouves pas, alors avec quelques gorgées d'eau. Et ce d'après le hadith de Anas, radiyallahu anhu, qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de rompre son jeûne avec des dattes fraîches avant de prier. S'il n'y en avait pas, alors avec des dattes sèches. Et s'il n'y en avait pas, alors il buvait quelques petites gorgées d'eau. Et s'il n'y a rien de cela, alors avec ce que la personne a comme nourriture ou comme boisson. Et s'il ne trouve rien, par exemple il est en voyage au moment du coucher du soleil et il n'a rien sous la main, ni à manger ni à boire, alors tu mets l'intention dans ton cœur de rompre ton jeûne. Et cela est suffisant, et dès que tu peux manger ou boire, alors tu t'empresses de le faire. Et on voit à travers ce hadith que la sunna est de commencer par les dattes fraîches. Si tu n'en as pas, alors des dattes sèches, et si tu n'en as pas, alors quelques petites gorgées d'eau. Donc, ceux qui par exemple ne mangent pas de dattes ou qui n'ont pas de dattes, la sunna pour eux est de rompre leur jeûne avec de l'eau, et non pas avec une autre nourriture. Et si tu fais cela avec l'intention de prendre pour modèle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu seras alors récompensé pour ses gorgées d'eau. Et parmi les comportements recommandés, également liés au jeûne, il y a le fait de faire des invocations au moment de la rupture, et même pendant le jeûne, c'est-à-dire tout au long de la journée, de multiplier l'invocation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ce d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: les invocations de trois personnes ne sont pas rejetées. Et parmi eux, il a mentionné le jeûneur jusqu'à ce qu'il rompe. Jusqu'à ce qu'il rompe son jeûne. Son invocation n'est pas rejetée. Donc durant ce mois, multiplions les invocations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Humilions-nous devant Allah subhanahu wa ta'ala et demandons-lui de lever cette épreuve de la communauté, de dissiper cette épidémie. Repentons-nous sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala et multiplions les invocations afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala dissipe cette épreuve et qu'il nous préserve ainsi que l'ensemble des croyants et des croyantes. Et parmi les comportements recommandés liés au jeûne également, il y a le fait de multiplier les aumônes, de multiplier la récitation du Coran, le fait d'offrir des repas de rupture à ceux qui jeûnent, ainsi que toute autre œuvre de bien. Et ce d'après la parole d'Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des gens, et il était encore plus généreux durant le Ramadan. Également, parmi les choses qui sont recommandées, il y a le fait de faire des efforts pour la prière de nuit, surtout durant les 10 dernières nuits de Ramadan. Et ce, d'après la généralité de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit: quiconque accomplit la prière de nuit durant Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. Et ce sujet, incha'Allah ta'ala, ce sera le sujet de notre assise de demain. On verra, bi'idhnillah, les règles de la prière de nuit. Et comment accomplir cette prière, car, comme vous le savez, nous allons certainement l'accomplir durant tout le mois dans nos maisons. Il est donc important pour chacun d'entre nous de savoir quelles sont les règles liées à cette prière. Enfin, parmi les comportements qui sont recommandés et qui sont liés au jeûne, il y a le fait que tu te rendes compte de la valeur du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis de jeûner. Combien de personnes ont été privées de ce bienfait? Certains sont morts avant l'arrivée de ce mois. Ils espéraient jeûner ce mois de Ramadan. D'autres sont atteints de maladies et sont dans l'incapacité de jeûner. Et d'autres, malheureusement, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les guider, sont plongés dans l'égarement et l'insouciance. Ils se sont donc détournés de l'accomplissement de cette adoration, Allah musta'an. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité et t'a accordé ce bienfait, tu dois louer Allah subhanahu wa ta'ala. Le louer pour t'avoir facilité et t'avoir aidé à accomplir cette adoration immense qui fait partie des piliers de notre religion et qui est une cause de l'élévation au degré, du pardon des péchés, de l'expiation de tes mauvaises actions. Tu dois donc remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tout cela et faire preuve de reconnaissance envers lui. Ceci était donc quelques comportements obligatoires et d'autres recommandés qu'il convient à chacun d'entre nous d'adopter durant le mois de Ramadan. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouter. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.